Donc la semaine dernière, on avait vu que, on avait assisté en fait à la, oh merci beaucoup, à la rencontre entre David et Saül. Et c'est la dernière rencontre. C'est important la dernière rencontre, les derniers moments. Saül en fait, lors de cette dernière rencontre, il a complètement raté la dernière occasion que Dieu lui avait donnée de demander pardon à David. Et vous savez, souvent on ne pense pas à voir les choses de cette manière-là. On pense à plein de choses. Oh, oui, il voulait encore... voilà, il aura encore voulu le tuer, il l'a poursuivi, là, là, là. Bon. Mais en fait, derrière, Dieu a encore une fois donné la possibilité à Saül de demander pardon. Et ça, on n'y pense pas. Mais c'est pourtant vrai. Parce que Dieu ne voit pas les choses comme nous. Nous, on voit toutes les choses visibles. Mais Dieu, il a un plan. Et son plan, c'est que personne ne se perde. Pas l'oublier ça. Hein? Et souvent, on nous présente Dieu comme un père fouettard. Oh là là, il est là derrière vous, et puis vous faites un faux pas, pam pam, et puis vous faites une bêtise, pam pam. La réalité est tout autre. Il donne mille et une occasions pour qu'on demande pardon, pour qu'on soit pardonné, pour qu'on revienne dans la communion avec le Seigneur. Ah, et ça, je ne l'invente pas. C'est un de mes versets préférés qui dit « Chaque jour, je tends les bras vers ce peuple rebelle. » C'est pas chaque jour, je suis derrière un buisson avec un bâton pour lui taper dessus, ce peuple rebelle. Mais je lui tends les bras. Et si on garde cette perspective, et on voit bien que ce rendez-vous, le dernier avec David, rendez-vous bizarre, hein, puisque David est arrivé de nuit pour lui dire encore une fois qu'il n'avait aucune intention de le tuer. Il lui a pris sa lance, il lui a pris sa cruche et il est parti... beaucoup plus loin pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, pour lui crier, je pense qu'il y avait un bon écho, et pour lui crier, Saül, tu vois que je ne cherche pas à te tuer. J'aurais pu le faire cette nuit. Donc il avait encore une occasion. Et il avait l'occasion de renoncer à sa jalousie. Aux calomnies qu'il écoutait, en fait il était assez fragile à mon avis, à la traîtrise, aux calomnies, etc., et il avait une occasion de renoncer au harcèlement à l'égard de David. Alors, on a vu la semaine dernière qu'il reconnaissait les fêtes. Waouh ! Formidable ça ! Il reconnaissait les fêtes. Il les a même confessées. Ah oui, David ! Il renonçait. Et il a même promis de ne plus le poursuivre. Quel progrès extraordinaire ! Il a même été jusqu'à bénir David, vous vous rappelez, à la fin du texte. Il lui a annoncé des bonnes choses. Mais il manquait quelque chose. Jamais il lui a demandé pardon. Et c'est vrai que si on lit le texte comme ça, sans faire attention, on se dit, mais super Saül, waouh, il reconnaît ses fautes et tout, mais il lui a jamais demandé pardon, ni à lui, ni à Dieu. Et ça, c'est quand même embêtant. Et ça m'a fait réfléchir parce que nous, les humains, on pense parfois que laisser tomber quelque chose, oublier, bénir, ne plus recommencer, c'est déjà formidable, hein ? Reconnaître qu'on a mal agi ou qu'on a mal parlé, alors ça suffit. Ah, humainement peut-être. Mais le chemin que Jésus nous a tracé, il passe toujours par le pardon. Demander pardon et recevoir le pardon. Donner le pardon. Parce que ce que Dieu demande, et on l'a vu dans la maison d'Élie, c'est demander pardon clairement et précisément pour ce qu'on a dit. Alors, il y a un truc dans les traductions, ça revient tout le temps, c'est demander pardon et soyez spécifique. Moi, souvent, je traduis précis parce que j'aime spécifique, je trouve que c'est un peu bon. Mais soyons précis, soyons spécifiques quand on demande pardon. Oh, je te demande pardon. Pourquoi ? T'as fait quoi ? T'as dit quoi ? T'as pensé quoi ? Soyons spécifiques, soyons précis. Et ça, c'est difficile. Pour ce qu'on a dit, pour ce qu'on a fait, et surtout en assumant pleinement notre responsabilité, sans se justifier. Parce que sinon, c'est, et Saül était un grand spécialiste, c'est la faute des autres. Bah bien sûr, c'est les autres. Et c'était pas entièrement faux, parce qu'il avait une cohorte de gens là, qui lui serinaient des calomnies à longueur de temps sur David, donc c'est la faute des autres qui disaient du mal de David, c'est la faute des femmes qui ont chanté « David a gagné la victoire sur 10 000 et Saül sur 1 000 », c'est la faute des autres. Bien sûr, quelque part, c'est pratique, c'est pas entièrement faux, ça y a contribué, Mais quand on demande pardon, l'important devant Dieu, c'est de reconnaître notre responsabilité. J'ai fait ça. Et je l'ai fait en toute connaissance de cause. Dieu sait si on a été entraîné par d'autres. Dieu sait si on a réagi à certains problèmes. Mais nous, notre part, c'est d'assumer notre responsabilité. C'est vrai pour notre relation avec Dieu. C'est vrai aussi dans notre relation avec les autres. Et c'est beaucoup plus difficile que de le laisser tomber. C'est vrai que c'est difficile. Ou simplement de reconnaître, oui, j'ai fait une bêtise. Ou même d'aller jusqu'à dire, oh, je ne vaux rien, je suis un déchet de la nature. Non, ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu demande juste qu'on soit précis. J'ai fait ça, je suis responsable, etc. Après, la responsabilité des autres, croyez-moi, Dieu s'en occupe. Et là, on va retrouver Saül la semaine prochaine. Et là, c'est un des textes les plus tristes de la Bible, je trouve, parce qu'il va atteindre son point le plus bas. Dieu lui a renouvelé des occasions de demander pardon. Et il ne les a pas saisies. C'est dommage. Et ça me fait réfléchir parce que la Bible nous montre que quand on refuse la grâce de Dieu, plusieurs fois comme ça, on peut arriver à un point de non-retour. Et ma prière, c'est que personne n'arrive à ce point de non-retour. Il y a un moment où, malgré tout l'amour de Dieu, sa patience, on fait le choix. Et bah, Dieu ne peut rien y faire. C'est nous qui choisissons, en fin de compte. Il nous laisse cette liberté. Et Saül, malheureusement, va faire le pire choix. On le verra la semaine prochaine. En même temps, j'en profite. S'il y en a qui veulent faire l'étude du chapitre 28 à partir du verset 3, chapitre 28 en entier, c'est un bien triste chapitre qui pose mille et une questions très compliquées. Quand j'ai vu le professeur de théologie de l'Ancien Testament, Monsieur Nicole, je lui ai demandé ce qu'il pensait de ce chapitre parce que pour moi, c'est un chapitre très compliqué. Lisez-le, travaillez-le. Si vous avez des idées, faites-m'en part parce que il n'est pas simple ce chapitre. Il n'est pas simple du tout. J'aimerais bien que vous le travailliez cette semaine. Vous verrez, il est passionnant, mais il n'est pas simple. Et pour aujourd'hui, on va s'attaquer à notre chapitre 27, qui n'est pas trop long, mais qui est aussi très problématique. En fait, on se trouve avec deux chapitres. David aujourd'hui, qui n'est pas terrible, et puis Saül la semaine prochaine, qui est encore moins terrible. On se trouve vraiment à un point bas de ces deux personnages. Alors, on va le lire parce que il n'est pas trop long. David se dit... Alors attention, hein. Écoutez ce que David dit juste avant, au chapitre précédent. Il dit « Ma vie sera d'un grand prix aux yeux du Seigneur et il me délivrera de toute détresse. » Amen, il termine le chapitre précédent là-dessus. Et quelques lignes plus loin, David se dit, alors suivant les traductions, c'est « dit à son cœur » ou « se dit à lui-même, « je serai un jour emporté par la main de Saül. » What? C'est pas tout à fait ce qu'il disait quelques lignes au-dessus, hein? Je n'ai rien de mieux à faire que de m'échapper, ok, à la rigueur, en allant au pays des Philistins, afin que Saül finisse par renoncer à me chercher dans tout le territoire d'Israël. Ainsi, je lui échapperai. J'ai trouvé la solution. Ah! Alors David et les 600 hommes qui étaient avec lui passèrent chez Achish. Tiens, encore lui. Il me semble qu'on l'avait déjà vu dans le passé, ce monsieur. Fils de Maoc, roi de Gath. David s'installa chez Achish à Gath, lui et ses hommes, chacun avec sa famille. David avec ses deux femmes, Akinoam la Jizréélite et Abigaël, femme de Nabal, la Carmélite, qu'il venait d'épouser. On dit à Saül que David s'était enfui à Gath et il cessa de le chercher. Alors, ça c'est un comble, hein. C'est la septième fois que Saül est informé par des espions. Les commentateurs se posent la question, s'agissait-il d'espions ou de traîtres, de gens qui étaient avec David et qui le trahissaient régulièrement? On ne sait pas, mais on peut se poser la question parce qu'à chaque fois, il y a toujours quelqu'un pour venir voir Saül et lui dire « David, fais ça, David, fais ça ». Curieux. David dit à Achish « Je t'en prie, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, qu'on me donne dans l'une des localités de la campagne un lieu où je puisse m'installer. » Pourquoi m'installerais-je chez toi, dans la ville royale, moi ton serviteur ? Depuis quand le futur roi d'Israël est serviteur d'un roi philistin ? Alors ce même jour, Achish lui donna Tsiklag. Le même jour, hein, il est sympa quand même. C'est pourquoi Tsiklag appartient au roi de Juda jusqu'à ce jour. Le temps que David habita au pays des Philistins, j'aime bien l'auteur de ce livre. Le temps que David habita au pays des Philistins fut 1 an et 4 mois. C'est rare que la Bible soit aussi précise. Il y a des raisons. David et ses hommes, maintenant on va voir comment ils vivent là-bas, partaient à l'attaque en faisant des incursions chez les Guéchourites, les Guirzites et les Amalécites. Alors les Guirzites, on n'en sait pas grand-chose. Les Guéchourites, c'était des tribus nomades de la région du sud. Et les Amalécites, on connaît. Car ceux-ci habitaient depuis toujours la région de Chour jusqu'à l'Égypte. David mettait le pays à mal. Il ne laissait en vie ni homme ni femme. What? Dieu n'avait rien demandé que je sache. Il prenait le petit bétail et le gros bétail, les ânes, les chameaux, les vêtements, puis il s'en retournait chez Achish. Achish disait, où avez-vous fait aujourd'hui vos incursions? Et David répondait, vers le Négev de Juda, vers le Négev des Yéramélites et vers le Négev des Caïnites. Pas précis ça. Hein? David ne laissait en vie ni homme ni femme. Deuxième fois. Vous savez, quand la Bible répète les choses, il y a des raisons. Pour les amener à Gath, parce qu'il se disait, mais la raison des meurtres. Il pourrait parler contre nous en disant, voilà ce qu'a fait David. Ce fut là sa manière d'agir. J'aime beaucoup ce commentaire. Ce fut là sa manière d'agir tout le temps qu'il habita au pays des Philistins. Ah, moi j'aime bien la Bible. Hein. Elle est complètement différente de tous les autres livres religieux qui se seraient délectés de saquer David là. Il y avait de quoi faire. Mais elle reste très très sobre. Ce fut là la manière d'agir tout le temps qu'il habita au pays des Philistins. Aïe, aïe, aïe. Achish avait confiance en David, ben voyons. Et il se disait, il s'est rendu odieux à tout Israël, son peuple. Il est donc mon homme pour toujours. Ouah. En ces jours-là, les Philistins rassemblèrent leurs troupes et formèrent une armée pour faire la guerre à Israël. Achish dit à David, tu sais bien que tu te mettras en campagne avec moi, toi et tes hommes. David répondit à Achish, eh bien, à toi de savoir ce que je vais faire. Et Achish dit à David, alors je ferai de toi pour toujours mon garde du corps. Pauvre Achish. Ah, c'est un chapitre rudement compliqué. Première chose qu'on observe dans ce chapitre, eh bien, Dieu n'est pas mentionné. Pas une seule fois. C'est pas un hasard. Rien n'est hasard dans la Bible. Ensuite, le chapitre commence... Alors oui, Dieu n'est pas mentionné, c'est-à-dire rien ne dit ce que Dieu pense, ce qu'il dit, ce qu'il veut, ce qu'il fait, aucune allusion au point de vue de Dieu. Ah, j'aime ça. Rien non plus d'ailleurs de la part de l'auteur. Hein. Aucun commentaire moral sur les événements. Intéressant. David faisait-il ce qui est bien et juste ou pas? Le texte ne dit rien. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on cherche. On dit parfois qui ne dit mot consent. C'est-à-dire, si tu dis rien, c'est que tu es d'accord. Mais je peux vous dire qu'avec la Bible, le silence ne veut pas souvent dire approbation. Dis rien, il va falloir chercher, il va falloir trouver. Il m'a un peu cassé les pieds ce texte, parce que suivant la façon dont on le présente, on peut basculer, ouais, David avait raison, ou bien, oh David, pas cette fois-là. Pas facile. David va pas s'adresser à Dieu. Alors ça, on est surpris, parce que David, c'est un grand spécialiste, hein, lisez les psaumes. Seigneur, dans ma détresse, Seigneur, viens à mon aide. Puis là, non, il s'adresse pas à Dieu. Il s'adresse même pas au sacrificateur qui était venu avec lui, Abiathar. Il y avait un sacrificateur dans la troupe. C'est vrai que Samuel, il est mort, il n'est plus là pour le conseiller, mais quand même, il y avait un sacrificateur sur place. Qu'est-ce qui lui prend à David? Eh bien, il lui prend quelque chose qui nous prend à nous souvent. Très souvent. Trop souvent. Le chapitre commence par David se dit. Dit en son cœur ou dit à son cœur. Il se parle à lui-même. On fait tout ça. Mon père avait horreur. Moi, j'ai l'habitude de parler toute seule. C'est horrible. Il trouvait ça tellement stupide. Mais bon. Je m'entretiens moi-même. Et c'est dangereux. On fait tout ça, mais parfois, c'est dangereux. Parce que vous allez voir ce qu'il se dit. Aïe. Je serai un jour emporté par la main de Saül. Autrement dit, il se prophétise à lui-même la défaite, l'échec, la mort. Ouais, mais c'est pas sympa, ça. Je suis sûre que ça vous arrive jamais, hein. Non, heureusement. De se dire, oh, ça va être la catastrophe. Je sens que ça va être la catastrophe. Il se prophétise la défaite, l'échec, la mort. En fait, notre pauvre David, il est complètement HS, il est complètement découragé. Complètement. Le texte ne le dit pas, David est découragé. Mais quand même, quand on se dit des trucs pareils... Depuis des mois, il faut se mettre à sa place. Depuis des mois, il fuit devant un ennemi qui est complètement aveuglé. Saül, il n'arrive pas. Je ne sais pas combien de fois il a essayé de lui ouvrir les yeux, mais rien à faire. Un ennemi aveuglé, acharné, et qui est soutenu par 3000 hommes de guerre. Bon, il y a de quoi être découragé. Nous, on l'est à moins. Hein. Et dans ces situations-là, il faut faire attention à ce qu'on se dit. Pourtant, il en avait reçu des promesses par Samuel, par Jonathan, par Abigail, même par Saül, rendez-vous compte. Il en avait vécu des miracles. Moi, je ne sais pas comment il a fait pour échapper à la lance de Saül. Il était doué, Saül. Il avait été prévenu par sa femme au moment où il allait être tué chez lui. Sa femme avait mis quelque chose dans le lit pour faire croire qu'il était malade, etc. Il avait été soutenu par Jonathan. Il avait été délivré in extremis dans la montagne, quand l'armée de Saül était juste en face, et juste avant le clash final, Dieu avait envoyé quelqu'un dire à Saül, les Philistins attaquent, faut que tu repartes. Il en avait vécu des miracles. Dieu était intervenu. Et puis bon, bien sûr, Goliath. Tout le monde connaît Goliath. Et pourtant là, notre pauvre David, il est dans l'incrédulité la plus totale. Sa foi dans les promesses de Dieu a tellement faibli qu'il ne les mentionne même plus. Alors à côté de ça, regardez le psaume 103. « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Ça, c'est du David, ça. Là, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui lui prend à David? Il n'en peut plus. Il doute même que Dieu va le délivrer. Alors qu'au chapitre 26, verset 24, il dit « Il me délivrera de toute détresse. » Dieu l'avait tellement souvent délivré qu'il aurait pu arriver à une conclusion différente. Mais la conclusion à laquelle il arrive, hâtive, radicale, « Je n'ai rien de mieux à faire qu'aller me réfugier chez les Philistins. » Non mais ça va pas. Ben si. Au lieu de mettre sa confiance en Dieu, David va trouver en lui-même la solution à son problème. Et combien de fois ça nous arrive? Alors on va en reparler plus tard au niveau de l'application, mais... Il va trouver en lui-même, et ça c'est dangereux, la solution à son problème. Il va compter sur son intelligence, Dieu sait qu'il était intelligent, sa sagesse, sa logique. Il va même raisonner, je trouve, en stratège militaire. Le stratège, avec son armée, tout ce qu'il cherche, c'est que son armée ne soit pas anéantie. Donc bon, s'il faut faire des manœuvres un petit peu particulières, tant pis, il faut quand même essayer de ne pas faire anéantir l'armée. Pas mauvais stratège. Il est dans une situation tellement désespérée qu'il regarde davantage, et ça c'est incroyable, vers les ennemis que sont les Philistins que vers son Dieu pour sa sécurité. Autrement dit, mes ennemis, j'ai tué leur Goliath, j'ai tué leur géant, j'ai fait des incursions contre les Philistins pendant des années, etc. Et c'est eux qui vont me protéger. Comment est-ce qu'il a pu en arriver là? Parce qu'il se parle à lui-même et il a commencé en se proclamant un mensonge sur sa vie, en ne faisant pas allusion à toutes les promesses qu'il avait reçues, à tous les miracles qu'il avait vécus. Et comme toujours, et c'est ce qu'il faut faire attention à ce qu'on pense, c'est ce mensonge qui va déterminer ses actions. Combien dans notre vie on se dit de mensonges qui déterminent nos actions? Dans plein de domaines, que ce soit dans nos relations humaines, que ce soit dans le travail, que ce soit dans plein de choses. On se dit un mensonge et on agit sur ce mensonge. Attention à ce qu'on se dit. On peut se dire des choses graves, pires que nos ennemis, Parce que ce qu'on pense, ça va se transformer en action. Et il est important, il est capital que ce que l'on dit, on se dit à soi-même, ce soit vrai. Et comment est-ce qu'on sait ce qui est vrai ? C'est avec la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit de moi ? Et si je commence à dire, je suis un déchet de l'humanité, je suis un raté, je suis une ceci, je suis une cela, ce sont des mensonges. Et nos actions vont en découler. Et c'est ce mensonge qui va déterminer nos actions. Nos actions vont forcément découler de ce qu'on pense. Attention à ce qu'on se dit à soi-même. Heureusement, quand on lit les psaumes, on voit que David n'a pas toujours fait ça. Je suis une créature merveilleuse, etc. Ouh ! Mais là, ce jour-là, le pauvre David, il n'était vraiment pas clair. Il ne s'appuie pas du tout sur les promesses de Dieu. Alors, autrement dit, la seule chose qui peut arrêter Saül, c'est ce qu'il dit là, l'empêcher de poursuivre David, c'est qu'il aille habiter chez les ennemis d'Israël. Bah voyons, c'est logique. Il n'a pas envie de se frotter aux Philistins. Ils étaient quand même bien armés. Hein. Problème. Alors, c'est de la logique humaine, oui. Si je me réfugie chez les Philistins, il va me laisser tranquille. C'est de la stratégie militaire, peut-être, qui marche. Puisqu'au verset 4, qu'est-ce qu'on a lu au verset 4 ? Quand Saül apprend que David est à Gath, grâce aux petits espions, là, il cessa de le chercher. Ben, vous voyez, ça marche. Ce qu'il s'est dit à lui-même, ça marche. Ça marche, mais est-ce que c'est ce que Dieu aurait choisi pour David ? C'est la question qu'on peut se poser quand on lit ce texte. Parce qu'il n'y a rien qui nous dit c'est bien, c'est mal. Donc nous, il faut qu'on réfléchisse. Est-ce que ça marche, c'est le critère qui justifie nos choix ? Aïe, aïe, aïe. Il y a des tas de choses qui marchent et qui ne sont absolument pas de Dieu. Il y a des tas de choses qui marchent et qui vont nous faire du mal à long terme. Il y a des tas de choses qui marchent. Mais est-ce que c'est le bon critère pour nos actions, pour nos décisions ? Et là encore, le critère, c'est ce que dit la parole de Dieu. Attention, ça marche. J'entends malheureusement souvent, ça marche, donc c'est bon. Attention. Alors cette fois-ci, on peut se demander, vous savez déjà, 21 verset 11, on va rapidement retourner là, il était déjà allé chez Achish. Je me disais, c'est pas le même, c'est pas possible. Ben si, c'est le même, rendez-vous compte. Ce jour-là, David, donc 21, verset 11. Ce jour-là, David s'enfuit pour échapper à Saül. Vous voyez, c'est pas nouveau. Il arriva chez Achish, roi de Gath. What ? Les gens de la cour d'Achish lui dirent, n'est-ce pas là David, le roi du pays ? Eux, ils avaient pigé en tout cas qu'il allait être roi, hein, s'il y a des Israélites qui avaient encore pas compris. N'est-ce pas là David, le roi du pays ? N'est-ce pas celui pour qui on chantait en dansant ? Saül a battu ses milliers et David ses dizaines de milliers. Ils étaient bien informés, les Philistins. Il n'y avait pas d'Internet, mais franchement, ils étaient bien informés. David prit au sérieux ses paroles. Il avait très peur d'Achish, roi de Gath. Il va y retourner. Il y a quelque chose qui m'échappe. Il simula la folie. Alors écoutez ça. Sous leurs yeux, il fit des extravagances parmi eux. Il faisait des marques sur les battants des portes et il laissait couler sa salive sur sa barbe. Non mais David, et tu y retournes ? Vous voyez bien que cet homme délire, à qui je dis aux gens de sa cour. Pourquoi me l'amenez-vous ? Est-ce que je manque de fou pour que vous m'ameniez celui-ci déliré devant moi ? Un tel homme va-t-il entrer en ma maison ? On ne sait pas comment, mais en tout cas, David partit de là, verset suivant. Et il y retourne. Alors là, c'est inquiétant. Est-ce que ça ne nous arrive pas parfois de faire une expérience négative et de recommencer quand même ? Malheureusement, oui. Et comme disait André tout à l'heure, l'histoire nous apprend une seule chose, c'est qu'elle ne nous apprend rien. Malheureusement, notre histoire aussi parfois nous apprend une chose, c'est qu'on ne retient pas la leçon. Mais cette fois-ci quand même, David est beaucoup plus intéressant. Parce que la dernière fois, il était là à faire le fou pour essayer de s'échapper. Cette fois-ci, il n'est pas seul. Il est accompagné de 600 soldats aguerris et qui connaissent très bien la région. Ils pourront se joindre à son armée. Donc, Achish, il n'est pas fou non plus. Et c'est normal, dans le cadre d'une alliance, tu fais alliance avec moi. Donc moi, je viens de te défendre, on fait la guerre ensemble. Toi, t'as un ennemi, je me bats pour toi. Moi, j'ai un ennemi, tu te bats pour moi. C'était un accord. qui se faisait classiquement dans la région à l'époque. Et Achish, il n'est pas fou. Il réfléchit, ce monsieur. 600 soldats aguerris, ça vaut la peine. Hein. C'est pas rien quand même. Et vous allez voir aussi pourquoi tout à l'heure. Par contre, David, lui, resté à Gath, il a quand même des souvenirs. Hein. Il y a des gens certainement qui le connaissent là-bas et qui savent bien qu'il n'est pas fou. Et il se dit, là, il y a tous les fonctionnaires du roi dans la ville de Gath. C'était apparemment une grande ville. C'est dangereux. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il demande une ville à la campagne, plus au sud. Et il se doute qu'à Gath, il va être surveillé par les fonctionnaires du roi et que le moindre faux pas risque d'être fatal. Question logique. Il est beaucoup dans la logique, là. 600 hommes, avec, précise, les femmes, les enfants, les serviteurs, les servantes, peut-être du bétail, même certainement. La raison semble juste à Achish, c'est logique. Agathe, ça ne va pas être génial pour vous loger tous, vous donner à manger, etc. Et il lui accorde une petite localité, donc à 30 km au sud-est de Gath, qui s'appelle Tziklag. Là, David va être beaucoup plus libre. Il échappe à la surveillance. 1 an et 4 mois, il va être là. On peut se demander pourquoi la Bible juge utile de nous préciser le temps. Ce n'était pas un coup de tête. Il s'est dit à lui-même un gros mensonge. Il y a cru. Il a pris une décision grave et dangereuse. Et ça va durer 16 mois. 16 mois, c'est long, surtout quand on a pris une mauvaise décision. David arrête de dépendre de Dieu pour sa délivrance. Il prend les choses en main. Il quitte son pays, le pays que Dieu lui avait confié comme roi. Il s'associe aux ennemis d'Israël. Ce sont des païens, rappelez-vous, avec des rites religieux pas terribles, hein ? Une morale complètement différente, des lois différentes dans beaucoup de domaines. Et tout ce qu'il va chercher à faire, incroyable mais vrai, c'est de plaire à Achish et de lui inspirer confiance. Alors comment il va faire ça ? Ben, vous avez vu, on l'a lu ensemble. Il va essayer de lui faire croire qu'il est en train de combattre son ennemi, Israël. Non mais le futur roi d'Israël, vous vous rendez compte dans quel drap il s'est mis ? Mais il n'a pas envie, évidemment, de combattre son peuple. Alors il a trouvé une solution, encore pareil, très logique, très stratégique. Il y a là-bas, dans ces régions-là, des peuplades qui font des razzias tout le temps, des voyous, des gangsters. Eh bien, je vais éliminer ces peuplades, je vais récupérer leur butin, et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais faire croire à Achish que je suis allée en expédition en Israël. Alors, quand on lit ça, on se dit, mais c'est pas possible. Donc il va mentir. Alors il s'arrange pour pas mentir, parce qu'il dit toujours, quand Achish lui dit, mais où t'es allé ? Dans la région de... Voilà, dans la région au sud, là. Mais il le laisse croire qu'il s'agit d'Israélites. Alors, c'est pas mal. Seulement, les hommes et les femmes, il y avait de grandes chances, de très grandes chances, qu'ils décident de parler. Alors qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il les extermine. Il les tue. C'est pas compliqué. On tue. Comme ça, les gens ne parlent plus. C'est tout simple. Hein. Seulement, est-ce que Dieu lui avait demandé de faire ça ? Et on va assister à quelque chose d'assez horrible dans cette histoire, si on réfléchit un petit peu. C'est que quand les gens vont prendre Ziklag, je crois que c'est les Amalécites d'ailleurs, ils vont pas tuer les hommes et les femmes. Ils ne vont pas tuer les hommes et les femmes, les enfants qui étaient dans la ville. Ils vont les prendre, bon, pour les vendre comme esclaves, ce n'est pas très gentil, mais ils ne les tuent pas. Alors que David, l'homme selon le cœur de Dieu, il se montre plus cruel. C'est quand même embêtant. Il est obligé de mentir à Achish et de tuer ces gens, sinon il risque de parler, pour cacher ses mensonges. Vous voyez où ça mène ? Et la motivation est grave. Et le commentaire, j'aime bien, ce fut là sa manière d'agir. Ça en dit long. Il dit rien. Vous voyez, parfois on s'imagine vraiment ce Dieu qui est prêt à vous taper, etc. Parfois il est simplement factuel. Ce fut là sa manière d'agir. Et combien de fois est-ce que Dieu nous regarde et dit, c'est là ta manière d'agir ? Sans commentaire. Je crois qu'on a souvent tort de voir un Dieu très féroce, très Par contre, ces paroles-là, ça va droit au cœur. Si on fait une bêtise et qu'on sent le Seigneur qui dit « C'est là ta manière d'agir. » Je trouve que ça porte plus qu'un coup de bâton. Et l'idée, évidemment, c'est s'emparer du butin, parce qu'il faut faire vivre hein, ces 600 soldats-là. De quoi ils vivent ? Il n'y avait pas de supermarché, hein, donc les frigos, c'était le bétail, les quatre pattes. Et il fallait faire vivre la troupe, ne pas dépendre financièrement des Philistins, parce que là, ce serait un comble. Eh bien, on fait croire à Achish qu'on attaque les territoires israélites, et il réussit à gagner la confiance. Donc, ça marche ! Encore une fois, ça marche. Mais à quel prix ? La Bible ne nous donne pas l'image d'un héros sans reproche. Et je crois que c'est quelque chose que je vous dis tout le temps. J'aime tellement la Bible pour ça. Elle est tellement authentique. L'homme selon le cœur de Dieu. Il va l'être plus tard. Mais là, franchement, ce jour-là, il n'est pas beau. Et on n'est pas mieux que lui. Il se place dans des situations vraiment embarrassantes. Et il ne peut s'en sortir que par des méthodes douteuses. Et quand on se nourrit de mensonges qu'on se dit à soi-même, on agit sur ces mensonges, on se met dans des situations inextricables. Et il n'y a que Dieu qui peut nous en sortir. Donc attention, attention à ce qu'on se dit. En résumé, il trompe le roi, il profite de sa crédulité, il abuse de sa confiance, c'est quand même pas mal. Il effectue des raids contre les ennemis d'Israël, bien sûr, ça va faire plaisir à la tribu de Juda qui va te débarrasser des pillards. Mais à quel prix ? Tout en faisant croire qu'il s'agit d'incursions contre la tribu de Juda. Et pour que son imposture ne soit pas découverte, ben il exécute les habitants. Ça doit être assez atroce, les habitants des lieux où il va sévir. Alors bon, attends, Achish, il n'est pas mieux. Hein. Achish, il est parfaitement conscient des luttes internes en Israël. Il est trop heureux d'avoir le soutien du prétendant au trône. Vous imaginez, il est ravi. Il espère sans doute faire de David, ce qui ressort de ce texte, c'est qu'il espère de faire de David son vassal et que Israël devienne une province soumise aux Philistins. C'est ce que faisaient les Égyptiens à l'époque. Et quand il affirme « il est donc mon homme pour toujours », il se dit « je le tiens, je le tiens ». Il se rend odieux aux Israélites. Ah ! Il ne pourra plus retourner là-bas. Sauf que le petit malin, il lui faisait croire ça. Puis, on arrive au chapitre 28, les deux premiers versets. C'est la guerre contre Israël. David est complètement coincé, là. Il joue sur les mots. Oh, il s'engage à rien de précis, hein. Vous avez vu comment il répond ? Je trouvais ça un petit peu « Tu sais bien que tu te mettras en campagne avec moi », lui dit Achish. « Eh bien, à toi de savoir ce que je vais faire. » Et Achish ne comprend rien. Et il pense que c'est un encouragement. Et il lui dit « Alors, je ferai de toi pour toujours mon garde du corps. » David est complètement coincé. Même s'il joue sur les mots, il est mal parti. Parce que maintenant, il va y avoir la guerre. Et là, il ne va pas pouvoir se tirer comme ça. Ce ne sera pas avec la parole qu'il va s'en tirer là. Il se voit nommé garde du corps du roi philistin. Vous imaginez le futur roi d'Israël. Il a un lourd passé quand même, hein, notre David. Vous n'aviez pas pensé à tout ça, j'imagine. Alors, il lui reste deux alternatives. Fuir comme un traître. Bon, ça, c'est la mort assurée. L'armée de Saül est déjà sur le pied de guerre. Elle est prête à aller se battre avec Israël. Donc, s'il voit 600 hommes qui se taillent, avec, vous imaginez, les femmes, les enfants, le bétail. Il les rattrape et il les tue. Et puis, s'il trahit son propre peuple pour protéger sa vie, c'est le peuple que Dieu lui avait confié. Je pense qu'il avait quand même encore ce cœur de berger. Et il n'était pas prêt à faire ça. Il n'était pas prêt à trahir son peuple. Donc, qu'est-ce qu'il pouvait faire ? Rien. La seule chose pour le tirer de là, c'était une intervention miraculeuse de Dieu. Et on va voir comment Dieu va s'y prendre la prochaine fois. Alors, juste une petite application pour terminer. Sous la pression, la peur, le découragement, on peut être très différent de ce qu'on croit être. Vous savez, Marc Brisebois disait toujours, c'est quand on marche sur le tube de dentifrice qu'on voit ce qu'il y a dedans. Et c'est quand il y a de la pression, quand il y a la peur, quand il y a le découragement, on s'aperçoit de ce qu'il y a dedans. Et on s'écoute soi-même au lieu d'écouter Dieu et d'écouter sa parole. Et c'est dans ces moments-là que c'est le plus dur. J'espère que vous êtes tous comme moi. Quand on est sous pression, qu'on a peur et qu'on est découragé, est-ce qu'on a envie de courir vers notre Bible et de proclamer les promesses de Dieu? Certains oui, tant mieux. Mais parfois non. On va dire parfois oui, on va dire parfois non, on ne va pas être méchant. Et tout ça parce qu'on peut croire que nos pensées sont neutres, logiques et fiables. Surtout si on se croit très intelligent. Pourquoi pas? Alors neutres, elles ne le sont pas. Le monde n'est pas neutre. Le diable peut injecter des pensées négatives dans notre tête. Il ne peut pas lire dans nos pensées. Là, j'aurais des tas de témoignages à vous donner là-dessus. Mais il peut injecter des pensées négatives. Et malheureusement, Evelyne ne pouvait pas le raconter ce matin parce qu'elle n'avait plus les détails, mais elle m'avait marquée par un témoignage tout au début où elle s'est approchée du Seigneur. Elle était en train de repasser. Et vous savez, quand on repasse, moi j'écoute la BBC pour travailler mon anglais, mais voilà, faut occuper son cerveau, quoi. Et souvent, dans ces moments-là, on commence à cogiter. Et puis, là, le diable peut injecter des pensées négatives. Et elle m'a raconté ça, mais ça m'a beaucoup frappée, surtout de la part de quelqu'un qui découvrait juste le Seigneur. Il disait, j'ai commencé à penser des choses négatives. Et encore plus négatives, et encore plus négatives. Puis je me sentais de plus en plus mal et de plus en plus déprimée. Puis tout d'un coup, elle s'est dit, mais c'est pas moi, ça. Et heureusement, elle avait écouté ce qu'on disait aux réunions de dames. Et elle a dit, au nom de Jésus, je chasse ces pensées négatives. Et elle a dit, c'était spectaculaire. Et j'ai bien aimé parce qu'elle était toute nouvelle. Elle n'avait pas d'habitude, etc. Et elle a dit, ces pensées négatives sont parties à la seconde même. Ah, ça m'a touchée, son témoignage. C'était pas une chrétienne de longue date. Mais elle a dit tout de suite, et elle s'est sentie bien, le soleil brillait de nouveau dans son cœur. Vous voyez ? Parfois, nos propres pensées sont extrêmement négatives. Donc attention, elles ne viennent pas nécessairement de nous et de notre cœur. Et notre recours, là encore, c'est la parole de Dieu. Si nos pensées ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, dites-vous que c'est la Bible qui a raison et c'est elle qui doit déterminer nos actions, pas nos pensées. Si David avait pu faire ça, le pauvre, enfin, je ne sais pas, à sa place, je ne pense pas qu'on aurait fait mieux. Parce que franchement, avoir autant d'hommes à ses trousses, etc., tout ce qu'il a vécu, c'était dur. Mais c'est la Bible qui a raison, c'est pas nos pensées. Parfois on pense que nos pensées sont neutres, non elles sont pas neutres. On pense qu'elles sont logiques, mais la logique humaine est souvent différente de celle de Dieu. Dieu dit, mes pensées sont au-dessus de vos pensées, mes voix au-dessus de vos voix. Ce qui peut sembler logique à notre chair, à notre nature humaine, ça peut être complètement contraire à ce que Dieu voudrait. Comme exemple, je vous donnerai la vengeance. Mais c'est naturel quand même. Dent pour dent, œil pour œil, c'est quelque chose de naturel, de charnel. La trahison. Quelqu'un m'a déçu. Ah, eh ben je vais le trahir. Eh ben il va comprendre, hein. L'égoïsme, etc. Enfin, on peut en trouver des tas. Ça, c'est la réaction naturelle. Donc attention, les réactions logiques de l'homme ne sont pas fiables. Et puis, est-ce que l'homme est fiable? Non. La Bible dit que l'homme est comme l'herbe. Ça en dit long. Qui demain sera fauché, etc. Malheur à l'homme qui se confie dans l'homme. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, etc., etc. J'avais relevé quelques personnes dans l'Ancien Testament qui ont cru que leur sagesse, leur logique valait la peine. Abraham, quand il fait passer sa femme pour sa sœur. Sarah, qui a utilisé les méthodes d'adoption de l'époque. Jacob, Ésaü, qui a arraché la bénédiction, c'était logique, hein, c'était promis. Et puis, il y en a d'autres qui n'ont pas écouté leurs pensées. Qu'est-ce qui se serait passé s'ils avaient écouté leurs pensées? Joseph, quand il a retrouvé ses frères? Daniel? Il aurait pu jouer le jeu, hein, comme David avec Gath. Esther? Ruth? Tous ces gens-là n'ont pas écouté leurs pensées humaines, leur logique humaine. Et il y en a d'autres, hein. Alors, pour terminer, une banalité, mais hélas, qui marche toujours. L'arme numéro un du diable, c'est le découragement. Ça marche très bien, les choses ne changent pas. Et on se dit, waouh, il n'y a rien qui bouge, j'en peux plus, j'en ai marre d'attendre, j'en ai assez, trop c'est trop. Enfin, tout ce qu'on dit tous, j'imagine que je ne suis pas la seule parfois à dire ça. Alors, je vais prendre les choses en main, moi. Je vais trouver une solution. Alors peut-être je vais m'arrêter là parce qu'on en reparlera la semaine prochaine. C'est quand même important, même si on n'a pas beaucoup, mais je pense que je ne vais pas vous emmener trop loin là. L'idée de prendre les choses en main, c'est un petit peu à double tranchant. Il y a des moments dans la vie où Dieu nous demande une collaboration. Et il y a des moments dans la vie où Dieu nous dit arrêtez, sachez que je suis Dieu. Regarde la délivrance que je vais t'accorder. Comment est-ce qu'on sait si on est dans un cas ou dans l'autre? Ah ben, la réponse est dans ce qu'on a dit tout à l'heure, la prière. Mais on en parlera la semaine prochaine parce que c'est important. Ce sont des domaines qui nous coûtent. Et là, on voit David qui a pris sa situation en main, mais il a tout basé sur un mensonge. Et quand on est découragé, est-ce qu'on se dit des vérités? Je suis une créature merveilleuse, mais je suis très découragée. Le Seigneur va m'aider, mais je suis très découragée. Non, on voit bien que quand on est découragé, ben non, on n'arrive pas. Et du coup, on se bat à soi-même, on prend des mauvaises décisions et on en paye le prix. Donc, on va travailler un petit peu ça la semaine prochaine, parce que je pense que c'est important, parce qu'on y passe tous. Et là, il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre dans ce domaine. Je veux dire, on peut être un leader, on peut être très intelligent, on peut... etc., etc., être un super bon chrétien depuis des années, etc. Mais devant le découragement, je crois qu'on est tous égaux. Tous égaux. Je me souviens avoir été surprise quand j'étais jeune de voir mon pasteur, qui était un homme très froid et qui maîtrisait les choses. Et le voir découragé, ça m'avait choquée. Et maman m'avait dit, ben, on est tous pareils. Et il était carrément négatif ce jour-là. Oh, scandaleux. J'avais 15-16 ans, j'avais trouvé quand même, pour être négatif quand même. Non, j'avais 18 ans, je crois. Négatif, mais en négatif. Mon pasteur, mais c'est pas possible. Ben oui, parce qu'on est tous devant le découragement. Le truc, ras-le-bol, j'en ai marre, c'est trop. On est tous là. Et je crois que c'est là qu'il faut plus que jamais prier, s'accrocher à la parole de Dieu. Et c'est là, je crois aussi, que si on prie en groupe, si on prie à plusieurs, si on se bat ensemble, on va s'entraider. Non pas dans l'idée de se fliquer, justement, mais dans l'idée de s'encourager. Allez, t'as pas prié, regarde! Regarde comment tu es là en ce moment! Regarde! Non, non! Ça va changer. On est avec toi, on va prier. Hein? Et vous savez, j'aime beaucoup les troupeaux d'éléphants. Quand il y a un éléphant blessé, paraît-il, hein, je sais pas, j'ai vu des documentaires, ils mettent l'éléphant blessé au milieu et tous les autres éléphants sont autour. Bah, pour moi, c'est un peu ma vision de l'Église. Qu'on soit des bons éléphants. Les gens blessés, les gens qui en ce moment ont des soucis de santé ou autre, on les met au milieu. Et puis, on les entoure. Alors, ce n'est pas toujours confortable hein, d'être au milieu. Ce n'est pas toujours agréable d'avoir tous ces gros mastodontes autour, là. Mais il faut voir le côté sécurité aussi. Il y a des moments où ce sera ceux du milieu qui seront autour pour nous protéger. André et moi, on a vécu ces moments où l'Église a été autour de nous pour nous aider. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Parce que là, on a expérimenté la grâce des chrétiens. Ça existe, imaginez-vous. Ils ont plein de défauts, les chrétiens. Mais moi, j'ai expérimenté, avec André, on a expérimenté la grâce, l'amour, le soutien. Et ça, on ne l'oubliera jamais. Parce qu'il y a eu une période où on en a eu besoin. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'autre. Demain, ce sera quelqu'un d'autre. Mais gardons cette image à l'esprit et prions ensemble, luttons ensemble pour nos malades en ce moment, pour ceux qui ont des soucis. Dieu veut nous donner la victoire. Philippe l'a rappelé tout à l'heure. Oui, il va nous donner la victoire. Mais il va nous faire participer. Alors moi, je vous avouerai que je préférerais que le chemin soit pavé de pétales de rose et qu'on n'ait pas besoin de se battre. Ça, c'est ce que j'aimerais, mais apparemment, ça ne correspond pas à la parole de Dieu.
J'aimerais qu'on soit une église africaine. Vous savez ce qui est là, la particularité, c'est que ça dure jusqu'à 3 heures de l'après-midi. Parce qu'il y a tellement de choses dans ce que Michel a partagé, dans ce texte, qu'on pourrait parler de Paul, de Pierre, du Nouveau Testament, vous voyez. On retrouve la même chose. Et je pense à ce verset, souvent on se le rappelle, Michel et moi, quelle est la caractéristique d'un apôtre, Ruben? Extrême patience, c'est pas patient. L'apôtre hein, est celui qui a une extrême Infinie patience, extrême patience. Pourquoi? Parce qu'il a appris à prendre des coups, parce qu'il a appris à être contré et à prendre la bonne attitude. Vous voyez, Paul, Pierre, tout ça, voilà. Et donc, sachez que si vous prenez des coups, des problèmes, eh bien, vous allez grandir et devenir un apôtre, peut-être un jour. Hein, en tout cas, c'est l'objectif, c'est de nous faire grandir dans l'épreuve, nous faire grandir dans la patience. Dis à ton voisin, Dieu veut te faire grandir dans la patience. Hein, la patience. Non. La patience. Voilà. Et là, quand on est dans le découragement, eh bien, voilà, on va avoir un frère, une sœur pour que ben, la patience grandisse, mais qu'on soit encouragé pour continuer le chemin. Amen. Paul dit, je cours. On est dans une course. Et jusqu'au bout, il faut continuer à courir pour le Seigneur. Amen.